Et c'est le journal de Mathilde Romagnan. Bonjour Mathilde.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous.
À la une de l'actualité, le port du masque devient obligatoire en extérieur à Paris et dans une partie de l'Île-de-France. Un renforcement des mesures sanitaires qui sera difficile à vivre avec la canicule qui se poursuit.
Mais dans ce journal également, le point sur la situation au Liban après une nuit d'émeute à Beyrouth et puis le football n'est pas épargné par une hausse des contaminations au Covid-19 et cela impacte les compétitions.
Et puis les invités de la matinale, vous en parliez Mathilde. 7h50, la situation insurrectionnelle au Liban avec Nadim Houri, directeur d'un cercle de réflexion Arabe Réforme Initiative. 8h20, Jean Jouzel pour le climat, le climatologue. Comment va la Terre après le confinement? Toujours aussi mal a priori puisque la banquise fond, un pan de glacier menace de s'effondrer et on croule sous la chaleur.
France Inter.
Après Marseille, Toulouse, Nice ou Lille, Paris se masque à partir de demain matin dès 8h. Même chose dans plusieurs villes de la Petite Couronne, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis. Et dans le Val-d'Oise, le port du masque sera obligatoire pour les plus de 11 ans et dans les endroits les plus fréquentés. Victoria Coussa.
Le masque obligatoire d'abord, là où les Parisiens ont l'habitude de se retrouver, surtout quand il fait chaud, sur les quais de Seine, au bord du bassin de la Villette et du canal Saint-Martin, où beaucoup trinquent le soir au Beurkamp, Fruit-Lap, à Bastille, rue de Belleville. L'obligation s'étend ensuite aux rues commerçantes, dans le quartier de la Goutte d'Or, Montorgueil, Bercy Village, la rue Daguerre, dans le 14e. Des masques aussi sur le marché aux puces de la Porte de Montreuil et dans les endroits touristiques, comme le parvis du Sacré-Cœur ou encore la rue Mouffetard. Si la préfecture serre les vis, c'est parce que la circulation du virus reprend en Île-de-France avec 400 cas positifs chaque jour depuis plusieurs semaines, surtout chez les jeunes, les moins de 30 ans. La ville de Paris espère même aller encore plus loin en l'imposant dans les parcs et jardins et sur les parvis des gares.
Mais les températures prévues aujourd'hui et demain ne vont pas aider à supporter le port du masque. On attend encore 40 degrés de maximale par endroit. 15 départements sont en alerte rouge à la canicule. De l'Île-de-France jusqu'au nord, 49 sont en vigilance orange. Selon Météo France, cette vague de chaleur doit durer au moins jusqu'à mardi.
Et que faire lorsque la canicule s'invite chez soi?
Mais car aujourd'hui, 7 millions de logements sont considérés comme des passoires thermiques qui peuvent devenir de véritables fournaises en période de canicule. L'une des mesures phares de la Convention citoyenne pour le climat retenue par le gouvernement, c'est justement la lutte contre ces passoires thermiques. En 2023, les locataires pourront exiger du propriétaire qu'il fasse des travaux. Mais certains attendent déjà depuis des années. Le reportage à Saint-Denis, près de Paris, d'Ajera Mohamed.
Véronique vit dans un 3 pièces au 13e étage d'une tour et dès qu'on franchit le palier, on sent la différence et les degrés supplémentaires.
32, 34, il fait un petit peu plus de 30 en tout cas.
Les rideaux tirés toute la journée et les deux ventilos qui tournent dans le salon n'y font rien, les nerfs et les corps lâchent.
Je vais exploser, au bout d'un moment on en a marre quoi. Moi je prends des douches quoi, 3 par jour quand j'ai trop chaud. Ouais.
Son fils Nicolas, lui, passe ses journées torse nu sous cette chaleur assommante.
Je dors beaucoup parce qu'il fait trop chaud. Je dors presque toute la journée.
Pourtant, il y a quelques années, l'office HLM a bien mené des travaux sur les façades de l'immeuble, mais rien de révolutionnaire.
Ils ont mis des stores sur une façade, sur les F4 en fait. Mais ici, ils n'en ont pas mis, donc on est obligé de fermer les rideaux en fait, à chaque fois. Et je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis des stores partout. Quoi.
Quant au gouvernement qui veut rendre obligatoire la rénovation énergétique de ces passoires thermiques, Véronique reste sceptique.
J'y crois pas trop, non. Je pense que pour isoler, c'est un coût. Surtout qu'il y a beaucoup de tours ici, donc ça va être dur pour eux.
En attendant, elle va se débrouiller et investir dans une clim.
On a dit que la Terre se réchauffait de plus en plus. Donc une clim, ça serait bien.
Mais je crois que c'est pas très écologique la clim, justement.
C'est vrai. Mais quoi faire autrement?
Dernière solution, déménager. Véronique a fait une demande de relogement il y a 3 ans déjà. Elle attend toujours une réponse.
Le reportage d'Ajera Mohamed.
Un retour au calme au Liban ce matin après une nuit d'émeute à Beyrouth.
Des milliers de personnes ont défilé hier dans la capitale libanaise contre le pouvoir en place. Des manifestants ont occupé plusieurs ministères. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre, faisant un mort parmi les policiers et plusieurs dizaines de blessés. Et aujourd'hui, l'aide internationale après l'explosion au port de Beyrouth s'organise. Une visioconférence sur l'aide d'urgence attribuée au pays du Cèdre réunit les représentants de l'Union européenne, des États-Unis, de la Chine ou encore de la Russie. Emmanuel Macron est co-organisateur de la réunion avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Il présidera les débats depuis sa résidence d'été du fort de Brégançon. Christian Chéneau.
C'est une démarche d'urgence, de solidarité vis-à-vis du peuple libanais, mais pas un chèque en blanc aux autorités du pays, tient-on à souligner à l'Élysée. L'objectif est de répondre le plus vite possible à la détresse des habitants de la capitale libanaise qui compte aujourd'hui 300 000 sans-abri. Les Nations Unies ont déjà évalué les besoins immédiats dans le seul secteur de la santé à 85 milliards de dollars. Dans cette première phase d'assistance, les pays donateurs ont identifié 4 secteurs prioritaires. Il s'agit de l'aide alimentaire, des hôpitaux, des écoles et enfin de la consolidation des bâtiments endommagés et qui menacent de s'effondrer à tout moment. L'Élysée n'a pas voulu avancer un chiffre sur le volume financier attendu aujourd'hui, même si on indique qu'il sera considérable. Ce n'est pas l'essentiel, le plus important, c'est l'efficacité du dispositif de l'aide. Et Paris insiste pour que cette assistance internationale soit délivrée au plus près du terrain par les ONG ou des acteurs libanais reconnus et efficaces, comme la Croix-Rouge ou l'armée.
En Biélorussie, ouverture à l'instant des bureaux de vote pour 7 millions d'électeurs appelés aux urnes pour les élections présidentielles. Au pouvoir depuis 26 ans, Alexandre Loukachenko brigue un sixième mandat, mais pour la première fois, il fait face à une femme, Svetlana Tikhanovskaya. Inconnue il y a encore 2 mois, elle a réussi à rassembler la quasi-totalité des opposants sur son nom. Comme il y a 6 ans, à l'occasion de la révolution du Maïdan en Ukraine, tous réclament aussi un changement de régime en Biélorussie. Mais la comparaison semble s'arrêter là, Claude Brouillot.
Les foules qui se pressent par dizaines de milliers à Minsk et dans les principales villes de Biélorussie à l'appel de Svetlana Tikhanovskaya, l'opposante principale à Loukachenko, demandent d'abord le départ du président sortant et réclament aussi des élections transparentes. Mais elle ne semble pas prête à voir le sang versé pour atteindre ses objectifs, à l'inverse des Ukrainiens du Maïdan. En revanche, ce mouvement de fond est annonciateur d'une évolution irréversible dans la société biélorusse, majoritairement prête à défendre son identité. Une évolution à moyen terme, quels que soient les résultats du scrutin ce dimanche soir, pour le politologue indépendant moscovite Alexei Malachenko.
Nous observons, disons, l'apparition d'une certaine identité biélorussienne. Dans un mois, dans un an, nous allons avoir un pays assez différent. Et ce ne sera pas un morceau post-soviétique. Peut-être Poutine et toute son équipe peuvent faire n'importe quoi pour garder Minsk et Loukachenko comme partie de l'espace post-soviétique. Mais c'est fini.
Face au jusqu'au boutisme de Loukachenko, la Russie de Vladimir Poutine semble encore en position d'attente, à moins qu'elle ne sache plus réellement quelle stratégie adopter, elle qui a déjà perdu le combat de l'intégration maximale avec son petit voisin. Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
La pandémie de Covid-19 a franchi hier 2 seuils symboliques. Le Brésil a dépassé les 100 000 morts et reste le 2e pays du monde le plus durement touché. Derrière les États-Unis, plus de 3 millions de personnes sont contaminées au coronavirus au Brésil. Et puis l'Afrique du Sud a franchi hier la barre des 10 000 morts du Covid-19.
Et la pandémie qui a aussi fortement perturbé les compétitions sportives.
Et après la reprise des championnats de football, les cas de Covid-19 se sont multipliés ces dernières semaines, notamment en Ligue 1, plus que dans les autres compétitions européenne. Le problème vient-il des clubs qui ne font pas respecter les règles ou du protocole imposé par la Ligue de football professionnel qui serait trop léger ou même est-ce que ce serait la faute des joueurs qui ne sont pas assez disciplinés? À 2 semaines et demie de la reprise du championnat, il y a de quoi se poser la question, Guillaume Batin.
Les joueurs et les entraîneurs ont beau apparaître masqués en conférence de presse pour donner l'exemple à leurs supporters, certaines équipes ne respectent pas les consignes à la lettre. Au Racing Club de Strasbourg, par exemple, 9 joueurs sont contaminés. Résultat, après une soirée dans un bar dansant à Genève, quelques jours avant un match amical face à Montpellier, l'équipe héraultaise n'a d'ailleurs pas apprécié. Le médecin de l'équipe alsacienne, François Pietra.
Aujourd'hui, une grosse partie de nos joueurs sont asymptomatiques, comme beaucoup de jeunes actuellement. Et les quelques joueurs qui développent des symptômes sont des symptômes plutôt banaux. Un peu de fièvre, de la fatigue, quelques troubles du goût, mais ça s'arrête là pour l'instant.
Les joueurs strasbourgeois sont en 14aine depuis cette sortie dans un bar, ce que redoute l'entraîneur de Rennes, Julien Stéphan.
On est très très attentif et on demande aux joueurs de prendre le maximum de précautions. Nous, on est régulièrement testés et à chaque fois qu'on a des résultats, on attend ça avec impatience. Je ne vais pas dire de la crainte, mais en tout cas, on est très attentif à ça parce qu'on connaît les conséquences que ça peut avoir sur la préparation, sur la suite.
L'UEFA, l'Union Européenne de Football, demande aux ligues et aux fédérations de ne pas reporter les rencontres, même quand il y a un très grand nombre de joueurs testés positifs, et de considérer les absents comme des blessés.
En Ligue des Champions, on connaît l'autre affiche des quarts de finale, Bayern-Barcelone. Les Allemands ont battu Chelsea hier soir, Barcelone s'est imposé face à Naples. Rendez-vous vendredi prochain à Lisbonne pour ces quarts de finale. Et puis la Coupe de France féminine de football, la finale c'est ce soir à Auxerre. Comme chez les hommes, ce sera un choc entre Lyon et le PSG à 21h. L'OL reste favori et espère remporter le 11e titre de cette compétition. Un match aux aires de préparation pour la Ligue des Champions féminines.
Merci Mathilde Romagnan, prends des nouvelles
rappel du ciel pour aujourd'hui. Jean-Pierre Hameau, dites-moi, les températures seraient identiques à celles d'hier?
Oh oui, quasiment, c'est du copier-coller, hein. N'attendez pas d'évolution, la chaleur va donc rester au menu de la journée avec des maximales cet après-midi comprises entre 31 et 38 degrés. Prévoyez 31 à Nice, 32 à Port-Barcarès, 34 à Tarbes, comptez 35 à Rennes, 36 à Toulouse. Il fera très chaud hein, dans le nord avec 37 à Lille et puis on attend encore 38 degrés dans la capitale. Ce matin, quelques averses orageuses vont persister dans les Hauts-de-France. Prévoyez quelques ondées dans le sud-ouest sous un ciel déjà menaçant. Et puis la grisaille persiste autour du golfe du Lion. Et partout ailleurs, le soleil va encore briller sans partage. Cet après-midi, on surveillera une évolution orageuse du sud-ouest au massif central et de la région centre aux frontières belges en passant par l'Île-de-France, apportant dans un premier temps de courtes ondées, puis des orages plus costauds vont se développer dans une masse d'air surchauffée. Et puis dans les autres régions, le soleil restera au programme de l'après-midi, et en particulier entre la Bretagne et la Normandie, mais aussi sur une bonne moitié est du pays, sans oublier le pourtour méditerranéen.